vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de février 2024, voici de grands romans pleins de mystères et de renouvellement. Je parle de renouvellement parce que je parle de certains romancières ou romanciers qui font vraiment un nouveau livre, voilà. Comme ceux de Lisa Gardner, comme Haute Couture de Colette Maclay, comme Tiffany Tavernier, Linwood Barclay, Nathalie Gautereau et Corinne Cotterot. Voilà. Alors je commencerai par L'été d'avant de Lisa Gardner, édité par Albin Michel, un thriller vraiment inédit, peut-être même le thriller le plus puissant de la décennie, selon certains critiques, et vous comprendrez pourquoi. Puis j'enchaînerai avec un récit haute couture de Colette Maclay, qui, apprentie à 14 ans, va fréquenter les plus grands couturiers pendant 50 ans, aux éditions Michel Lafon. Le troisième livre est « On revient à roman »,« Providence Canyon » de Corinne Cotterot aux éditions Albin Michel, que je découvre avec entrain et je remercie Albin Michel qui me l'a fait parvenir. Le quatrième roman, « En vérité Alice » de Tiffany Tavernier, paru chez Sabine Wispizer. Et pour moi aussi, c'est une révélation. Il y aura « Musique » de Claude Debussy. Et puis, cinquième roman « Disparu à cette adresse » de Linwood Barclay, chez Bellefond, un roman noir puissant et irrésistible. Et en sixième position, j'ai placé « Dans l'œil de la vengeance » au Rouergue noir, un premier roman inspiré en partie de l'expérience professionnelle de l'autrice, qui est Nathalie Gautereau, un nom à retenir par son écriture qui vous emballera. Nathalie Gautereau, voilà. Et donc je commence par Lisa Gardner, dont je suis fan. J'ai lu beaucoup, beaucoup de romans d'elle. Mais celui-ci, L'été d'avant, qui vient de paraître chez Albin Michel, son héroïne est une nouvelle venue. Elle s'appelle Frankie Elkin. C'est un être blessé qui, malheureusement, comme pas mal de personnes, s'est réfugié dans l'alcool. C'est terrible. Elle a beau fréquenter les AA, c'est-à-dire l'Association des Alcooliques Anonymes, pour essayer de s'en sortir, mais elle retombe. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Paul. Ils vont s'aimer et elle, à partir de là, elle ne va plus boire. Elle va vraiment s'arrêter pendant même quelques années, elle ne boira plus. Mais elle se sent encore coupable de cette détresse, et raison pour laquelle elle doit se donner à quelque chose, se fixer une mission. Et sera, voilà qui est totalement inédit avec Lisa Gardner, cette mission, c'est de retrouver des personnes disparues. Mais pas n'importe lesquelles. Des personnes disparues en particulier quand elles appartiennent à des minorités. Quand la police a baissé les bras. Que les médias ne s'y sont jamais intéressés. Que tout le monde a oublié. Et c'est là qu'elle, elle veut intervenir, même si son Paul ne la comprend plus. Pourquoi, disait-il, je ne te suffis plus ? Tu es accro, amer, mais merde, Francky, je t'aime. Paul, donc, qui va se détourner, qui va s'en aller. Il y aura d'ailleurs un drame que vous découvrirez dans ce roman concernant Paul, parce qu'il était marié à quelqu'un d'autre. Et moi, dit Francky Elkin, je ne le suis pas, parce que je veux me vouer à cette mission. Mission par laquelle elle va partir dans une nouvelle ville, parce que c'est sur Internet qu'elle arrive à trouver des personnes disparues et qu'elle décide donc de mener son enquête. Même elle n'appartient pas à la police, elle le fait gratuitement, elle le fait parce que c'est pour elle une mission. Et donc elle va dans une nouvelle vie, un nouveau travail, parce que il faut bien qu'elle gagne sa vie, donc elle travaille, et puis une nouvelle enquête. Voilà. Francky, la quarantaine, ancienne alcoolique, est un loup solitaire. Et ce loup solitaire a déjà retrouvé 14 victimes, parce qu'elle pose des questions à des personnes qui ont connu plus ou moins ces victimes. Mais malheureusement, ces 14 victimes qu'elle a retrouvées étaient mortes. Voilà. Lorsqu'elle arrive, au début de ce roman, elle arrive à Boston, qu'elle ne connaît pas. Donc il lui faudra trouver un plan pour connaître cette ville et se frayer un chemin dans cette ville, en particulier dans le quartier de Matapan, un secteur densément peuplé où plus de 35 000 personnes s'entassent dans des logements sociaux. Alors elle parvient à trouver, je l'ai dit, du travail. Elle a été barmaid pendant beaucoup d'années, donc elle sait bien faire ce métier de barmaid. Donc elle va s'adresser à un bar-restaurant qui s'appelle Stoness. Et elle va rencontrer le patron, Monsieur Stoney, Emmanuel Stoney, le patron de ce bar-restaurant, qui au début ne semble et bougon, ne la regarde à peine. Ne semble pas intéressé par cette jeune femme un peu bizarre. Mais elle va arriver à le persuader et elle sera acceptée comme barmaid. Tout de suite, elle va montrer ce qu'elle sait faire et convaincre le patron qui va même la loger sur place. Et à partir de là, elle pourra retrouver, se mettre à rechercher Angélique Lovely Bado, celle qui a disparu, Angélique Lovely Bado. Commence alors une longue et saisissante, car vous serez vraiment saisi par cette écriture, par cette lecture de 440 pages, quand même, avec en fait deux filles, parce que Angélique avait une amie, Livia, qui elle aussi a disparu, que l'on découvre au cours de l'enquête. Donc deux filles, deux familles, parce que ces deux filles appartenaient à deux familles différentes, vues ensemble, et qu'il faut que Francky Elkin retrouve et interroge ses familles. Et elle sera même aidée par un policier efficace, perspicace, qui n'avait pas vraiment arrêté, qui avait laissé tomber l'affaire, mais elle restait pour lui comme un poids mort. Et sympathique, ce policier s'appelle Otam, Et ensemble, eh bien, vous allez voir qu'ils vont parvenir à boucler cette enquête, malgré bien des difficultés à surmonter, ce qu'elle fera grâce à sa détermination, malgré les coups du destin qu'elle va recevoir. Avec plus de 25 millions de livres vendus dans le monde, dont 2 millions en France, Lisa Garner domine vraiment la scène du suspense. Et vous comprendrez pourquoi en le lisant, si ce n'est déjà fait. Voilà pour le premier roman. Le deuxième est un texte remarquable qui va vous embarquer, je peux vous le dire. C'est « Haute couture » de Colette Maclay, paru chez Michel Lafon, et je remercie Gilles Paris qui me l'a fait parvenir. C'est une vie aux côtés des plus grands couturiers, avec une très belle préface d'Inès de la Fressange. Inès de la Fressange est un mannequin célèbre, et on voit dans ce texte, dans ce récit, on voit des mannequins parce que la couture ne peut pas se faire sans des défilés avec des mannequins très bien choisis. Et c'est Inès de la Fressange qui fait la préface de Haute Couture de Colette Maclay. Et aussi une bonne étoile parce que dans son travail, Colette Maclay devra choisir un autre, partir vers un autre couturier. Et c'est grâce à cette bonne étoile d'Inès de la Fressange que cela pourra se faire. À force de talent et de travail, mais aussi parce qu'elle a osé rêver, Madame Colette, dans ce milieu-là, on parle de monsieur ou de madame ou même de mademoiselle. Madame Colette, qui ici raconte sa vie, 50 ans de sa vie, elle s'est taillée, c'est le cas de le dire, puisque on parle de couture, un destin extraordinaire. Elle s'est taillée un destin vraiment extraordinaire. Petite main à 14 ans, couture ou coiffure? La question qui se pose, si tu arrêtes l'école, eh ben il va falloir travailler. Finalement, ce sera couture, tout simplement parce que sa tante, la sœur de mon père, Marthe Duval, travaille chez Chanel. Ah, Chanel, indissociable de Mademoiselle Chanel, appelée Coco, comme elle, parce que Colette, dans son enfance, était surnommée Coco. Donc c'est peut-être un signe. Nous sommes en 1960. Elle a son certificat d'études en poche. Et grâce à Marthe, décroche un rendez-vous chez Madame Gisèle Poitevin, la seconde d'atelier de celui qui allait devenir son chef au magasin des Trois Quartiers, boulevard de la Madeleine. Le magasin, grand magasin des Trois Quartiers, boulevard de la Madeleine. C'est ainsi que le 26 septembre 1960, elle, Colette, 14 ans, rentrée comme apprentie par la grande entrée au 31 de la rue Cambon. La maison Chanel se situe rue Cambon. Plus tard, elle rencontrera Mademoiselle, âgée de 76 ans, parfaitement élégant dans son tailleur qu'elle a créé et qui servira de modèle pour d'autres couturiers. Elle est âgée quand même, hein, 76 ans, amincie, mais quand même toujours très élégante. Dans ce monde-là de la couture, tout est hiérarchisé je vais vous parler un petit peu de cette hiérarchie parce que c'est très important. À la base se trouvent des apprentis. Puis en observant bien et en montrant quelques aptitudes, on peut espérer passer seconde main débutante. Vient ensuite le poste de seconde main qualifié, puis première main débutante, suivie de première main qualifiée, et seconde d'atelier, et enfin le Graal, première d'atelier. Alors, deux distinctions à ce niveau-là. Première d'atelier, soit en flou, c'est-à-dire que l'on est... On leur attribue les robes du soir, les robes de cocktail, les robes de mariée ou première d'atelier tailleur. Là, eh ben, vous travaillez sur les vestes, les manteaux et les pantalons. Si le flou a toujours fait plus rêver, le tailleur est souvent plus difficile, mais elle y arrive très bien. Grâce à sa bonne étoile et aux rêves, ne dit-elle pas, reprenant une citation d'Oscar Wilde, « J'ai fini dans les étoiles de la mode après avoir visé la lune » et gravir tous les échelons que je vous ai présentés et devenir première d'atelier à 30 ans. Une vraiment très belle performance. Côtoyant Coco Chanel, Anaë Mori, Monsieur de Givenchy, ce sera d'ailleurs un très bel apprentissage, formation avec Monsieur de Givenchy, Karl Lagerfeld, que l'on découvre vraiment, Yves Saint-Laurent, Galliano, et pour finir, à la fin de ses 50 ans, comme elle se sent un peu sur une voie de garage, même si elle est première d'atelier, elle va fonder Couture et Co, son propre atelier. Alors oui, ce récit, son récit, est un voyage merveilleux au cœur de l'âge d'or de la mode française en pleine mutation. Car on voit arriver, à la fin, les financiers qui plaident pour que la mode devienne un spectacle. C'est aussi, justement, ce récit témoigne, justement, de l'incroyable métamorphose de toute une société, celle du XXe siècle que nous avons connue. À lire absolument pour retrouver tous ces grands couturiers en détail dans ce récit, cité en détail dans ce récit, que vous retrouverez donc tous très très bien campés. Voilà pour ce deuxième livre que je voulais vous présenter. Le troisième est un roman, un beau roman, Providence Canyon, de Corinne Cotterot, qui vient de paraître chez Albin Michel, qui a eu l'amabilité de me le faire parvenir. Avec ce nouveau roman de Corinne Cotterot, nous découvrons un lieu qui s'appelle Providence Canyon, situé dans les paysages grandioses du Colorado, en Amérique. Donc, c'est là-bas que se déroule ce roman, en grande partie. À partir de trois entrées, trois personnages quelque peu mystérieux. Il y a tout d'abord Paul Carter, chargé de réhabiliter, l'impossible Railway et le pont de chemin de fer qui enjambe Providence Canyon. Il se présente aux résidents du Dry River Café et Ressort, l'unique camping de la région, mais qui est aussi un lieu où l'on peut boire et manger, l'unique camping de la région. tous les résidents, mais aussi les habitants de cette région, tous se réjouissent des retombées économiques futures du projet. Afin de faire de ce lieu qui a été abandonné un lieu touristique. C'est une voie ancienne reliant San Diego et les beautés du désert d'Anza-Barrego jusqu'à Yuma. Voilà. Donc c'est vraiment un très grand parcours, très long parcours, avec pas mal de tunnels. Et grâce à l'intervention de Ted Huntington, le PDG de la West Ocean Railway Corporation, qui veut financer le projet. Le deuxième personnage s'appelle Jean-Baptiste. Il est surnommé JB. C'est un Français qui vit là, terré, depuis des années, et dont le seul plaisir semble être celui de chausser ses patins à roulettes pour avaler des miles. Du mouvement extrême pour dissimuler un drame terrible que l'on découvre dans ce roman, et l'on comprend un jour il avait une compagne adorée qui malheureusement va disparaître. Et donc, voilà, pour s'en remettre, il veut rester terré là, avec ses patins à roulettes. Mais un jour, ça va changer parce qu'en chemin, il trouve un carnet abandonné, rédigé par une certaine Stéphanie, française comme lui, et qui parle dans ce carnet de rails, de tunnels et de Providence Canyon. Alors il s'interroge, qui est cette Stéphanie? D'où vient-elle? Et c'est le troisième personnage de ce roman haut en couleur. Avec des lettres écrites à un certain Marcel, voilà, qui vit en France, là où elle vivait, et qui a voulu partir pour découvrir une autre vraie vie plus intense. La lecture du carnet de Stéphanie a ouvert une porte sur le temps, a provoqué une obsession. Le présent n'a plus d'importance, le futur encore moins. Ce qui compte, ce sont ses écrits, et les cris assourdissants que l'on trouve dans ce carnet de cette compatriote. Et tout ça va le mobiliser. JB qui était un peu cloîtré sur sa souffrance, JB va s'intéresser à Stéphanie, va la rechercher. Une multitude de veines lui insuffle une nouvelle énergie, une quête, parce que ce n'est pas vraiment une enquête, c'est plus qu'une enquête, c'est une quête qui commence, où cet inconnu, seul lien entre Paul Carter et JB, les mènera-t-elle? Car ce dernier, Paul Carter, afin de ne pas retarder le chantier, a dissimulé une découverte macabre dans le tunnel numéro 17 que vous découvrirez. Voilà, je vous laisse découvrir tous les aspects de l'un et de l'autre, des trois personnages qui permettront de découvrir la vérité, avec pour toile de fond le grand Ouest américain, le roman de Corinne Cottereau, qui se lit comme un road movie, qui nous convie à un véritable voyage au cœur de la réalité contemporaine de l'Amérique, des laissés pour compte, car les gens qui vivaient là étaient vraiment des laissés pour compte. C'est un voyage aussi de l'homme confronté à une nature violente. Oui, un superbe roman à lire. Et je passe au quatrième livre qui est aussi vraiment très bien, un roman, En vérité Alice de Tiffany Tavernier, paru chez Sabine Vespizer. Sa mère, ses amis, le médecin qu'elle consulte, personne ne la comprend. Depuis 5 ans, Alice est l'héroïne de ce roman. Alice est enfermée dans la conviction qu'elle sauvera son compagnon de lui-même, celui qu'elle considère comme son mari, grâce à leur amour immense. Mais tout est clair dès le début de ce roman magistral, et beau sujet aussi parce que c'est plus d'un personnage qui pense que on peut par son amour agir sur une situation un peu tendue, si ce n'est désespérée. Car oui, Alice vit sous emprise et ne l'admet pas un instant, malgré les dissensions qui se sont faites entre eux, entre les deux. Et ce roman nous conduit sur des chemins absolument inattendus. Jusque-là, Alice devait rester à la maison, s'occuper du ménage, de la cuisine, de tout, en attendant que le mari revienne de son travail. Mais arrive un moment où ce travail ne fonctionne plus très bien. Enfin, voilà, vous découvrirez les uns et les autres, les choses. Elle est sommée de trouver du travail. Et Alice, qu'entrave une timidité maladive depuis son arrivée à Paris à 10 ans, après une enfance radieuse au Guatemala, et dont le CV est inexistant puisqu'elle ne pouvait pas travailler. Elle n'essuie, donc elle fait des demandes, mais elle n'essuie que des refus. Sauf un jour, elle va recevoir un accord, enfin un entretien, elle va faire un entretien avec l'association diocésaine de Paris, qui recherche et qui veut recruter une assistante pour le promo terra des causes des saints. À sa grande surprise, l'évêque responsable, que l'on découvre, l'embauche. Et voilà que Alice, trop heureuse d'avoir trouvé quelqu'un, lui est trop heureux d'avoir trouvé quelqu'un pour remettre de l'ordre dans les dossiers en attente, car il y en a pas mal de dossiers en attente. Il y avait bien quelqu'un, mais qui n'a pas fait affaire, donc il est tout content que Alice accepte d'entrer et d'être assistante. Voilà. La voilà embarquée, et nous aussi avec elle, dans un univers dont elle ignore tout, et nous, ben, on connaît pas très bien cet univers. Alors on le découvre aussi. Première étape d'une procédure qui doit s'achever à Rome, aidée par des collègues d'une bienveillance sans limite, elle découvre alors l'audace et la folie de ces gens qu'on appelle des serviteurs de Dieu, des vénérables ou bienheureux, qu'il s'agit d'évaluer et dont Tiffany Tavernier, l'auteur de ce roman En vérité Alice, Tiffany Tavernier, ponctue son récit, illuminant dans le même mouvement son texte, qui est vraiment, on découvre des choses, est le quotidien de sa protagoniste. Alors il y a ici ou là aussi des pensées qui sont émises dans ce roman et qui sont vraiment très bien. Parmi les ruines et les décombres qu'il appreuvera à la coupe de la délivrance. Jour dénué de brouillard, ses ennemis ont encerclé son âme. Son histoire était alors si belle, ça je l'aime beaucoup parce que elle exprime beaucoup de choses. Son histoire était si belle, alors si belle, quand elle vivait dans l'ignorance et les ténèbres. Combien de gens vivent dans l'ignorance et les ténèbres? Mais heureusement, la vérité l'emportera. Aujourd'hui, les errements sont corrigés. Le soleil sans déclin, enfin, se lève sur le monde. Alors, à la faveur d'extraordinaires rebondissements, la puissante romancière invite le monde extérieur dans la bulle de déni où s'était réfugiée Alice, l'autorisant à se frayer un chemin vers sa propre vérité et vers une liberté certaine. Voici donc, avec ce livre, ce roman, En vérité Alice de Tiffany Tavernier, un superbe portrait de femme, elle qui ne cesse, Tiffany Tavernier, de s'interroger dans d'autres livres déjà aussi, dans d'autres romans, elle qui ne cesse d'interroger l'infinie capacité de l'être humain à renaître à soi et aux autres. Vraiment une révélation. Et on écoute de la musique, une plage, suite bergamasque de Debussy, Claude Debussy, Clair de lune, interprétée par Elisabeth Sombart au piano. Thank you. une bien belle musique, voilà, qui vient bien après, en vérité, Alice de Tiffany Tavernier, qui est riche, pour finir, riche d'espérance, voilà. Et cette musique aussi est riche d'espérance en la vie, en la vérité, en la vie. Alors maintenant, j'aborde des romans, ce qu'on appelle les polars, des polars. Bon, c'est vrai que le premier de Lisa Garner, L'été d'avant, est une sorte de polar, mais je vous l'ai dit qu'il était vraiment très différent des autres, puisque son héroïne partait à la recherche des personnes disparues. Alors moi ici, on parle aussi d'une personne disparue à cette adresse, de Linwood Barclay, qui vient de paraître chez Bellefond Noir. Qui a tué, une question qu'on se pose dès le début, puisqu'on découvre qu'une personne a disparu, et on pense qu'elle a été tuée. Qui a tué Brie? Elle s'appelle, son prénom, Brie Masson, comme c'est américain, canadien... Est-ce que Masson ou Mason, je ne sais plus, mais Brie Masson. Une question angoissante et fascinante qui porte ce roman noir, surprenant, décalé, intense, vertigineux même, de Linwood Barclay, qui signe ici un roman jubilatoire à l'intrigue implacablement machiavélique, pleine de rebondissements, et c'est vrai, c'est brillant. J'avais lu le précédent, je vous l'avais même présenté sur cette radio, et cela, quand je parle de renouvellement, il s'agit bien aussi de renouvellement de la part de Linwood Barclay. Tout le monde a sa petite idée lorsqu'une femme connue quand même, appréciée, disparaît brutalement, sans laisser de traces. Les regards se tournent alors vers le conjoint. C'est, je trouve, surréaliste. Parce que tout accuse semble accuser Andrew, absence d'alibi, précipitation de vendre leur maison qu'il était en train de restaurer, et même à changer de ville, parce que il y a eu tellement de haine de tout ce qu'il accuse qu'il ne peut pas rester dans cette ville. Donc il va changer de ville, de nom, avec l'accord du FBI. Pourtant, après six ans, l'enquête n'a rien donné. Et l'inspectrice, autre personnage de ce roman, Marissa Hardy, enrage. Elle le croit coupable, même si le corps n'a pas été retrouvé et qu'il clame son innocence en vain. Mais un jour, il reçoit cet appel de son ex-voisin et ami du couple, qui est formel. Et c'est un coup de théâtre, car ce voisin et ami a vu une jeune femme brune se présenter à l'ancien domicile des maçons, ou des maisons, a observé longuement la maison qui n'était plus la même puisque elle avait été vendue et que le nouveau constructeur avait refait cette maison, donc il ne ressemblait plus du tout à l'ancienne. Elle arrive avec une voiture noire et des courses, elle a fait des courses, et elle lève les bras au ciel parce que elle ne reconnaît plus la maison, donc elle se met à hurler et à s'enfuir affolée. Et cette femme, pour ce voisin, c'est Brie. Il n'y a pas de. Où était-elle durant tout ce temps? donc un mystère à éclaircir. Et pourquoi réapparaît-elle maintenant, alors que Andrew est sur le point de refaire sa vie avec Jen dans une autre ville? Cela devient cornélien. Vous êtes d'accord avec moi, car il lui faudra peut-être choisir entre Brie et Jen. Brie, est-ce qu'il l'aime toujours? Et Jen, ben, apparemment, il l'aime bien, Jen. Et si le retour de l'épouse adorée tenait plus du cauchemar que du miracle? C'est bien la question que l'on peut se poser et qui revient, voilà. Ce qui est bien le cas en faisant le tour de la famille de Brie qui déteste toujours et encore Andrew, ou son ami Greg qui est un peu bizarre. Il prétend, c'était son ancien associé dans leur affaire, et il prétend que c'est toujours son ami. Donc tout le monde accusait Andrew. Et ce roman se déroule en grande partie dans le Connecticut, bien décrit, entre Stratford et Milford, voilà. Américain d'origine, Lidwood Barclay vit à Toronto, au Canada. C'est un grand romancier reconnu dans le monde qui fait se superposer les vies, les angoisses et les enquêtes avec une habileté, ça je peux vous le dire, vous ne pourrez pas lâcher ce livre, disparu à cette adresse de Lidwood Barclay, qui est Belfond-Noir, vous ne pourrez pas le lâcher, avec une habileté hors du commun. À vous, chers lecteurs, de le lire à nouveau pour savoir si c'est bien Brie qui est apparu, revenu, ou si c'est une autre belle inconnue. Voilà. Alors, j'ai encore un roman noir. Dans l'œil de la vengeance, au Rouergue noir, c'est de Nathalie Gautereau. C'est un premier roman. Dans ce premier roman, très inspiré, l'heure de la vengeance est du borgne. C'est un personnage central de ce roman. L'heure de la vengeance et du borgne est venue. Mais nul, au début de ce roman, nul ne le sait encore. Dans une ville de Lyon, voilà pourquoi, que l'on retrouve avec plaisir, qui est bien décrite, on est bien dans cette ville de Lyon, et qui sort enfin du confinement. Nous sommes en septembre 2021, donc on parle encore de ce confinement. Ce personnage central dit, le borgne, que sa femme, c'est ce qui va déclencher une vengeance, que sa femme Isabelle a quitté. Donc il est très malheureux que rien ni personne ne pouvait plus l'empêcher d'agir. Elle se met à construire sa vendetta personnelle. Car il a été blessé dans son enfance de gamin, battu par son père. Donc. Et puis, il avait la figure, quelque chose à l'œil qui le rendait un peu bizarre. Et donc, les copains de sa classe, les camarades de sa classe, trois en particulier, vont le choisir comme bouc émissaire. Donc, il va souffrir de tout cela. Et donc, voilà le temps pour lui d'agir, l'œil de la vengeance, d'agir, et donc d'avoir trois cibles dans sa mire, car il veut vraiment tuer ces trois cibles avec une arbalète. Il y a Alain Gasparo, le premier, Gilles Tournier, le deuxième, et David Klein, le troisième, à qui tout a réussi, tandis que lui n'est qu'un homme seul au casier judiciaire chargé. Il a fait de la prison. Il est méprisé de tous. Et quand il aura réglé leur compte à ces trois cibles, trois victimes futures, il s'occupera de son ex-femme qui n'aurait pas dû l'abandonner. Il commencera donc, au début de ce roman, on le voit, à la chasse pour tuer Alain Gasparo, devenu agent immobilier. Comment il le tuera, est-ce qu'il le tuera, ça vous le découvrirez en lisant ce roman, dans L'œil de la vengeance de Nathalie Gautereau. C'est comme ça que sa trajectoire va croiser celle de Louise Parizet, un autre personnage central. Louise Parizet, une avocate à la tête bien faite qui se remet difficilement d'une peine de cœur et se partage entre les dossiers des petits dealers, donc on découvre ce milieu-là à Lyon, les petits dealers à Lyon, et les divorces sans amiable. Et puis celle d'un troisième personnage qui aussi rentre dans ce roman, celle de Kofi Diallo, un Sénégalais que son père a forcé à prendre la route de l'exil et de travailler en France et de gagner de l'argent pour le renvoyer, parce que il a son père a emprunté de l'argent, on peut dire, et il faut qu'il rende cet argent. Donc, et qui a survi, ce Kofi Diallo, survit à Lyon comme livreur à vélo, en redoutant constamment un contrôle de la police. Il y aura d'ailleurs une tentative à un moment donné, et grâce aux petites rues de Lyon, il arrivera à semer la police, qui ne placée malgré lui sur le chemin du tueur. Donc, le jeune clandestin, il est clandestin, va mener l'enquête au péril de sa vie. Je trouve, dans ce premier roman très riche, que Nathalie Gautereau superpose remarquablement bien tous ces univers qui s'entrecroisent, avec tous ces liens secrets qui relient les uns aux autres, dans ce roman psychologique en diable. Et les deux autres cibles, celle de Gilles Tournier, devenu dentiste fortuné, et David Klein, agent d'affaires, mais trouble, hein, qui voudrait se rapprocher même de la mairie, voilà. On découvre donc qu'ils n'ont pas toutes les mains propres, qu'ils ont des mains sales, qu'ils dissimulent. Et Kofi Diallo, personnage vraiment attachant, parce qu'il est hanté par ses compagnons morts au large des côtes mauritaniennes, il a décidé de sauver les fragiles, les menacés, quoi qu'il lui en coûte, avec l'aide de la police, parce que bien sûr, il faut une aide de la police pour attraper le borgne. Mais il va peut-être bien, vous allez le découvrir, il va peut-être bien arriver à tuer des personnes. Parce que c'est vrai que la femme du premier ne comprend pas. La police accepte l'idée d'un accident parce qu'il tombe d'une colline et se tue en bas et on retrouve les restes. Donc on pense que c'est un accident. Mais la femme avait reçu un appel peu de temps avant, qui venait d'Isère, Et elle est persuadée, donc elle va aller voir Louise Parizet, l'avocate Louise Parizet, pour dire « Mais non, mon mari a été assassiné, donc il faudra que la police intervienne pour aider Kofi à mener l'enquête et à arrêter le tueur. » Oui, un superbe roman de 347 pages qui vous tient en haleine du début jusqu'à la fin par cette judicieuse écriture de Nathalie Gautereau. Je vais terminer là-dessus. Vous dire quand même que, puisque j'ai parlé du Rouergue noir, au Rouergue noir, il y aura bientôt, en mars 2024, un nouveau roman de Peter May qui revient en Écosse et dans les Highlands où il situe son nouveau roman avec un meurtre qui a été étonnant que l'on découvre dans ce nouveau roman de Peter May que j'aurai l'occasion de lire et de vous présenter donc le mois prochain. Donc voilà, je vous ai parlé de haute couture, une vie aux côtés des plus grands couturiers, de Colette Maclée, qui est parue chez Michel Lafond, de Providence Canyon, de Corinne Gautereau, parue chez Albin Michel, En vérité Alice, de Tiffany Tavernier, chez Sabine Vespizer éditeur, de Linwood Barclay, disparu à cette adresse, au Belfond Noir, et de Nathalie Gautereau, dans L'œil de la vengeance, un grand roman. Voilà, et je vous dis donc au mois prochain. Voilà, merci de nous écouter et de nous lire, et de donner même vos appréciations à la radio qui me les transmettra. Merci. Thank you.